Mon mari a disparu. Il est rentré du travail. Il a posé sa serviette contre le mur. Il m'a demandé si j'avais acheté du pain. Il devait être aux alentours de 7h30. Mon mari a-t-il disparu parce que ce soir-là, après des années de négligence de ma part, excédé, fatigué par sa journée de travail, il en a eu subitement assez de devoir, jour après jour, redescendre nos 5 étages en quête de pain? J'ai essayé d'aider les enquêteurs. Était-ce vraiment un jour comme les autres? Nous avons épluché un à un les fichiers informatiques ouverts par mon mari depuis le matin. Il n'avait rien vendu ni reçu de spécial. Il avait fait visiter 3 appartements. Il avait déjeuné comme tous les jours d'un sandwich acheté au coin de la rue. Les visiteurs, un jeune couple, un couple entre 2 âges et un divorcé grisonnant rencontré par les enquêteurs, n'avaient rien remarqué de particulier, hormis un chauffe-eau défaillant et autres détails immobiliers. Ils étaient venus pour ça, ils ne se souvenaient même plus de la tête de mon mari. Comme je ne pouvais pas rendre compte heure par heure de son emploi du temps, les enquêteurs m'ont conseillé de fouiller dans sa correspondance, dans les tiroirs de son bureau, dans les poches de ses costumes, de vérifier les coups de fil de sa dernière facture professionnelle. Eux ne pouvaient pas s'en occuper. 200 personnes disparaissaient tous les jours dans le pays et on les retrouvait rarement dans les îles en compagnie de belles blondes, comme si je n'étais pas, moi, une belle blonde. D'autres encore passaient la frontière, il était sage, là, de renoncer à tout espoir. D'autres, enfin, se jetaient dans la mer, échouaient tout gonflés sur les plages, les yeux et la langue mangés par les crevettes. Il valait mieux s'épargner ce genre de retrouvailles. Les enquêteurs m'ont demandé si mon mari était dépressif. Je ne me suis pas adressé tout de suite aux enquêteurs. Cela m'a d'abord pris un certain temps avant de me rendre compte que mon mari avait disparu. Je profitais souvent du fait qu'il parte acheter la baguette pour appeler ma mère. Je raccrochais quand j'entendais ses pas au 4e. Ma mère et moi, ce jour-là, sommes bien restés occupés 1 quart d'heure, elle à bavarder, moi à l'interrompre régulièrement en lui rappelant que je devais bientôt la laisser. J'ai eu la sensation d'abord diffuse que son récit se prolongeait plus avant que d'ordinaire. J'ai regardé dans la rue pour voir si mon mari ne traversait pas. J'ai tendu l'oreille pour chercher à l'entendre dans l'escalier. Et c'est ma mère qui a raccroché la première, en m'accusant comme d'habitude de ne lui prêter aucune attention, alors que j'étais simplement penché à la fenêtre, en ayant désormais envie de me livrer à cette seule occupation, guetter au calme l'apparition de mon mari. Le soleil commençait à se coucher et je respirais dans l'air doux. Il était assez rare à cette heure de la journée que je reste ainsi oisive à ma fenêtre. En général, vers les 7h15, je m'apercevais que rien n'était prêt et que je descendais en courant acheter de quoi manger en oubliant la baguette. L'épicerie ne fait pas dépôt de pain et la première boulangerie est de l'autre côté du boulevard. Il faut un temps fou pour traverser. Je me disais que j'étais plutôt bien là, à attendre mon mari dans l'air du soir, que je ferais bien à l'avenir de prendre ainsi mon temps et que la boulangerie devait être fermée, que mon mari avait dû en chercher une autre plus loin et qu'il s'était arrêté lui aussi pour respirer.